Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler de la Russie et de son armée, tant des déboires du passé que de la montée en puissance contemporaine, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Facon, directrice adjointe de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous êtes l'une des toutes meilleures spécialistes en France de la politique de défense et de sécurité russe. Auteur aussi récemment, dans la collection des carnets de l'Observatoire, d'un excellent ouvrage intitulé « La nouvelle armée russe », qui est vraiment d'autant plus remarquable qu'il est à la fois étonnamment compact et en même temps extrêmement clair et détaillé. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour.
Alors, je suis d'autant plus ravi de vous recevoir que c'est évidemment une question militaire et stratégique majeure, que cette montée ou remontée en puissance militaire russe, puisque c'est le grand compétiteur, voire adversaire stratégique des puissances occidentales, disons depuis plus d'un demi-siècle, même si on peut discuter longuement, philosophiquement, et je pense qu'on le fera, de savoir si c'est tant un adversaire que ça, ou un partenaire contrarié, même si... Même aussi d'ailleurs de si c'est une puissance occidentale ou asiatique, etc. Parce qu'évidemment, ça fait partie de la question. Et la réponse, comme toujours dans ces cas-là, c'est un peu des deux. Mais il se trouve que je me suis aperçu en préparant cette émission que c'était aujourd'hui le 100e épisode du podcast, en tout cas de ces grands formats du mardi, sinon évidemment on a bien plus. Et en faisant un peu un tour d'horizon, il s'avère qu'on n'a pas forcément traité si frontalement que ça, cette question russe, dans les 99 épisodes précédents. Alors on en a bien sûr parlé ici ou là, encore récemment, on a discuté du mythe de la doctrine Gerasimov avec Emmanuel Dreyfus, mais on n'a pas forcément fait ce tour d'horizon des capacités militaires russes. Alors en y réfléchissant, je me suis dit que c'était peut-être dans une certaine mesure, parce que c'est trop évident, et on peut considérer aussi qu'on parle toujours de la Russie, quand on parle par exemple de nucléaire ou de guerre de l'information, d'une manière ou d'une autre. Mais c'est aussi parce qu'il fallait une occasion et un support pour ce tour d'horizon, et que celle-ci est excellente à travers cet ouvrage que vous faites paraître, et qui répond exactement à cet objectif. Et bref, je trouve ça en tout cas parfaitement approprié qu'on consacre cet épisode 100 au grand compétiteur stratégique majeur qu'est la Nouvelle-Russie, et à son outil militaire. Alors c'est d'ailleurs là qu'il faut probablement prendre les choses dans une certaine mesure, à l'avènement de cette nouvelle Russie, à la chute de l'URSS en 1991. Alors on peut évidemment remonter plus loin, et à l'armée soviétique si vous le désirez. Et on sait que c'est d'ailleurs l'un des éléments de langage de Vladimir Poutine que de souligner la continuité russe sur le temps long et par-delà la chute de l'URSS. Mais c'est probablement un point de départ intéressant. Non seulement la chute de l'URSS, mais surtout la dissolution un peu progressive de l'armée soviétique. Parce que c'est à bien des égards un peu le traumatisme et l'un des points bas de l'histoire militaire russe, cette période de quelques mois ou de quelques années, vous nous direz, mais disons de 91 à 93, 94 peut-être, où cette armée se décompose, où les officiers et les soldats sont plus payés à temps, ce qui va créer un certain nombre de comportements problématiques, notamment du point de vue de la corruption, qui vont largement façonner l'image de l'armée russe de ces années-là et de cette décennie 90.
Oui, et c'est ça l'héritage qu'a Vladimir Poutine quand il arrive au pouvoir en 2000, c'est le fruit de ces 10 à 15 années de déliquescence, donc avec des budgets de défense qui sont toujours une part importante du PIB, mais avec un PIB très contracté, ce sont des années 90, les années de crise. C'est aussi une armée qui est choquée parce qu'elle était quelques années auparavant l'enfant chéri du régime soviétique, et là finalement, comme à peu près tous les services publics, si l'on peut dire, elle se retrouve confrontée à des problèmes financiers. Dans certains cas, certaines unités sont obligées de s'en remettre aux autorités régionales qui sont de plus ou moins bonne volonté pour aider les unités militaires. Comme vous le soulignez, les soldes et les salaires des officiers sont versés avec parfois plusieurs mois de retard. Et puis, dans la presse occidentale, on parle de l'armée russe en haillons. Ça, c'était un titre d'un ouvrage de Laure Mandeville. On parle de la crise de l'armée russe en permanence. Donc ça, c'était vraiment un choc. Il faut aussi le resituer dans un contexte où, en fait, l'armée ex-soviétique doit rapatrier très rapidement sur son territoire des forces, plusieurs milliers d'hommes, avec tout leur équipement, des pays de l'ancien pacte du Varsovie, des États baltes également. Et ça coûte des sous. Et là aussi, ça pose un vrai problème social. On ne sait pas où loger ces militaires. En fait, on ne sait pas quoi faire d'eux. Et donc ça suscite vraiment un sentiment de défiance, en fait, de la part des militaires russes à l'égard du pouvoir.
Et il faut peut-être souligner qu'au-delà de ce problème social, il y a aussi un problème politique qui se déclenche, enfin, dans ce contexte de débandade un peu de l'État russe, puisque l'armée se retrouve pas mal impliquée dans des affaires compliquées, notamment politique de coup d'État, puisqu'ils seront mis à contribution dans différentes tentatives de coup d'État contre Gorbatchev, puis Yeltsin en 91, en 93. Et que, d'une manière générale, mais bon, comme ça n'est pas en fait anormal pour un État fort qui se décompose, bah, la question du rôle politique de l'armée, qui était un symbole refuge un peu, se pose vraiment dans ce début de la décennie 90.
Tout à fait. Et ça fait vraiment partie de cette notion de défiance que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'armée russe se rend bien compte quand même qu'elle est, dans la perspective de Boris Eltsine, finalement un levier ou une courroie d'ajustement dans le jeu politique. Qu'est-ce que l'armée peut m'apporter à moi, Boris Eltsine, dans ma stratégie de maintien au pouvoir ? Donc l'armée russe, ça le vit assez mal, puisqu'elle comprend que, en fait, c'est pas tellement le sort des militaires, la politique de défense qui intéresse Eltsine, mais plutôt ce que peut lui apporter, en termes de soutien, l'armée dans son projet politique. Et un moment vraiment tournant dans cette défiance, c'est la guerre en Tchétchénie. Hein, vous vous souvenez qu'elle a été prise, la décision avait été prise dans un cercle très ramassé, avec le ministre de la Défense, Gratchev à l'époque, qui était un des soutiens de Eltsine au moment du coup d'État manqué en 91.
Donc ça, on peut rappeler que c'est la première guerre de Tchétchénie, donc à partir de 94.
Tout à fait. Et elle est prise dans des conditions que une grande partie du corps des officiers russes considère totalement inacceptable d'un point de vue politique. Donc une décision prise rapidement. A priori, Gratchev avait vendu à Eltsine que ça allait l'aider sur le plan politique, qu'il allait faire un coup et que ça allait redorer son blason politique. Et on sait comment ça s'est passé. Ça s'est très mal passé.
Alors c'est pas anodin du tout, parce qu'on peut souligner que la Tchétchénie, c'est le territoire russe, c'est évidemment l'enjeu de la dispute, mais c'est le territoire russe, et du coup faire intervenir l'armée russe sur le territoire russe pour réprimer, disons, un mouvement autonomiste, ça n'est pas évident par rapport à l'identité de l'armée russe, de l'armée soviétique passée, quoi.
Bah, ça a un effet, en fait, double. C'est-à-dire que l'armée ne réagit pas, finalement, d'une même manière face à cela. D'un côté, il y a ceux qui sont totalement hostiles à l'idée d'une intervention sur le territoire contre le peuple russe, en réalité. Et c'est ce qui explique qu'au moment où cette guerre est lancée, bah, certains vont carrément démissionner ou vont aller mener la troupe, mais finalement démissionner au bout de quelques mois de commandement. Donc ça, c'est la première réaction. Il y a d'autres personnes au sein du corps des officiers russes qui vont le voir différemment, en voyant qu'à cette période-là, dans les nouvelles doctrines, dans la doctrine militaire de 93 et aussi dans le débat stratégique en Russie, eh bien, on met l'accent sur les menaces d'ordre intérieur. Et donc, ils se disent, si on veut garder le peu de budget qu'on a, ben, il faudrait peut-être quand même rester dans cette tendance. Et puis, il y a aussi ce traumatisme de l'éclatement de l'URSS, et vous avez beaucoup d'officiers supérieurs russes qui veulent pas que la Fédération de Russie subisse le même sort. Et donc du coup, et c'est peut-être ce qui a aidé finalement le pouvoir politique face à une armée de plus en plus mécontente, c'est qu'elle était divisée, cette armée, sur quel est le sens de notre mission, comment servir cet État qui n'est peut-être pas tellement solide, etc., etc. Et donc il y a eu deux types de réactions au sein de l'armée russe sur cette question de l'intervention à l'intérieur du pays.
Ouais, mais alors il faut peut-être en dire un petit mot sur le côté concret, quoi, puisque c'est aussi un point bas très clairement d'un point de vue opérationnel, parce qu'il faut dire que ça se passe très mal. Enfin, il y a une bataille de Grozny, c'est des dizaines de milliers de morts civiles. Puis même ça finit en 96, les rebelles reprennent la ville de Grozny quelques jours en plus avant la prestation de Boris Yeltsin. Donc c'est pas que un problème compliqué psychologiquement et métaphysiquement sur le rôle de l'armée, c'est même un échec opérationnel, quoi.
Ah bah c'est une claque complètement. Encore une fois, la décision, elle a été prise très rapidement, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire défaut de planification stratégique, ça veut dire on envoie sur le terrain, et c'est pour ça aussi l'armée russe a perdu la bataille de l'opinion publique. C'est un autre élément de la crise qu'elle traverse à ce moment-là, c'est que les Russes déjà étaient choqués par les pertes de nombreux conscrits dans la guerre en Afghanistan, et là, à nouveau, on envoie des conscrits qui ne sont pas entraînés sur un terrain qui, visiblement, n'avait pas été préparé, dans une opération militaire qui avait été mal préparée. Donc, déjà, l'armée russe est soumise à la pression d'une opinion publique très, très mécontente. Et donc, on envoie cette armée russe mal préparée, mal équipée, qui, finalement, a pour principale force la masse des bombes qu'elle peut lancer et des hommes qu'elle peut mettre sur le terrain, mais qui, une fois sur place, est soumise à un harcèlement dans un conflit asymétrique et qu'elle perd effectivement, puisque en 96, ce sont les accords de Khasavyurt où l'on indique que l'on renégociera le statut de la Tchétchénie au début des années 2000. Mais c'est effectivement un échec pour l'armée russe. Et bien sûr, ça contribue à la position de défiance d'une grande partie des militaires russes vis-à-vis du pouvoir politique, parce qu'en plus, Boris Eltsine, qui est censé être le commandant en chef des armées, finalement décline toute responsabilité et la renvoie vers ses militaires en disant qu'en gros, le corps des officiers a très très mal joué ce coup-là, etc. Donc là, c'est vraiment un élément très fort de cette défiance entre militaires et pouvoir politique dans cette période.
Ouais, pour autant, ce qui reste quand même au pire du pire de cette décennie 90, il faut en dire un mot, parce que c'est évidemment central dans la capacité militaire russe depuis très longtemps et encore aujourd'hui, c'est la puissance nucléaire. Alors, je vais pour ça reprendre une expression de Joseph Henrotin, qui, dans un excellent hors-série de DSI, le 71, consacré à la Russie, qui d'ailleurs, je signale, on en reparlera, mais complète parfaitement votre ouvrage. Il a une expression que j'aime bien, que je vais vous soumettre. Il y décrit la Russie des années 90, je cite, dans la situation d'un manchot qui doit se défendre avec un bâton nucléaire. Donc, c'est-à-dire que, voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette expression-là et qu'est-ce que ça dit dans une certaine mesure de l'espèce d'impuissance militaire de cette décennie 90, qui, pour autant, a toujours un plancher, un truc minimal, qui est quand même que c'est une superpuissance, du point de vue des forces non conventionnelles.
Alors, c'est sûr que dans la perspective des Russes, c'est mieux que rien. On a cet énorme gourdin nucléaire qui, quand même, en théorie, face à la menace d'une agression extérieure, que ce soit occidentale, même si à cette époque-là, on a le sentiment que ça va mieux quand même avec l'Occident. Il y a toujours ce projet de s'intégrer avec les puissances occidentales, etc. On pense bien sûr aussi à la Chine, en se demandant ce que ça va donner sur le long cours, parce qu'on voit bien que la Chine monte en puissance, tandis que la Russie décline. Donc c'est rassurant, effectivement. Et ce que l'on voit, c'est que dans ce maigre budget de défense des années 90, quand même, le nucléaire est priorisé. Mais avec les défauts que ça peut avoir, c'est-à-dire que ça ne suffisait pas pour assurer une modernisation rapide de la triade stratégique. Donc il faut noter que même sur ce point, ce volet nucléaire, dans les années 90, on voit bien qu'on n'arrive pas à suivre le rythme. Donc,
le volume de cet immense arsenal de têtes nucléaires.
Garder la parité avec les États-Unis.
C'est ça. Et on ne se préoccupe pas des vecteurs, ni des sous-marins. On reparlera évidemment des sous-marins, mais ni des sous-marins, ni des missiles, ni des avions. Enfin,
la priorité, c'est le nucléaire, parce que malgré tout, il faut...
Oui, mais le nucléaire, il faut bien le délivrer, donc c'est
ça. Il y avait quand même une bonne masse d'armes et de vecteurs, donc ils avaient de quoi voir venir, mais ils voyaient que du côté occidental, on pouvait moderniser, et eux, ils ne pouvaient pas. Donc il y avait une attrition, en fait, de cette triade stratégique, dont on sent encore, à certains égards, les effets aujourd'hui, mais ça va quand même beaucoup mieux. Mais alors, bien sûr, c'est une garantie, et ça permet aussi à la Russie de rester une puissance, en tout cas facialement, puisque on est la deuxième puissance nucléaire mondiale. C'est quand même un levier de choix pour dire qu'on doit peser sur les grands dossiers internationaux. Et en même temps, à cette période-là, qu'est-ce que l'on voit dans les débats doctrinaux? On voit que on s'interroge sur les interventions à l'intérieur du pays, que les principales contingences auxquelles on estime que l'armée russe va être confrontée, ça va être plutôt les conflits locaux dans son voisinage immédiat. Et on se dit, le nucléaire, c'est bien joli, mais à quoi ça va nous servir dans ce type de contingence? Et on a bien vu en Tchétchénie que ce dont on a besoin, c'est plutôt un outil militaire mieux organisé, avec des hommes mieux entraînés et avec des armements conventionnels de bonne qualité. Donc il y a quand même cette tension. Alors, on sait qu'on peut mettre ce nucléaire sur la table, et très vite, dès que les Russes ont l'occasion de le faire, ils le font. Mais on voit bien aussi que ça ne peut pas être la réponse à toutes les contingences opérationnelles auxquelles l'armée russe peut être confrontée. Et alors, on a beaucoup parlé de ça ces derniers temps, en disant pour les Russes, ça peut être l'outil d'une désescalade par des frappes nucléaires limitées, etc. Mais il y a quand même un vrai débat là-dessus en Russie. Et on voit bien qu'ils essayent de se doter d'outils qu'ils appellent de dissuasion conventionnelle, parce que justement, même s'ils ne vont pas hésiter à rouler des muscles nucléaires dès qu'ils en ont l'occasion pour rappeler que leurs intérêts doivent être pris en considération, eux-mêmes ne sont pas certains qu'en cas de conflit, ils sauraient pourrait bien maîtriser l'escalade du nucléaire. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important et qui prend sa source dans les années 90. Donc d'un côté, c'est la garantie ultime, mais d'un autre côté, c'est assez inconfortable parce qu'on sait que ça ne va pas être utile dans toutes les circonstances.
Un bon résumé de la question du nucléaire, c'est utile mais inconfortable d'une manière générale. Mais alors à partir de ce point-là, qui est un peu un point bas, enfin à plein de niveaux différents, il y a un chapitre suivant qui s'ouvre évidemment avec l'accession au pouvoir de Vladimir Poutine. Alors progressivement au cours de l'année 99, il devient président en fin d'année après avoir été Premier ministre. Et donc, on voit souvent ça comme le coup de départ de la nouvelle armée russe, du nouveau mouvement pour l'appareil militaire russe. Mais si on regarde la chronologie de près, il faut bien constater que ce sont des débuts qui sont quand même un peu mouvementés, puisque d'emblée, il se retrouve avec une nouvelle guerre en Tchétchénie dès le début 2000, mais aussi quelques mois après, il se retrouve avec le naufrage du sous-marin Kursk et les sous-mariniers qui sont évidemment prisonniers à l'intérieur. Ce qui est évidemment, soit dit en passant, un symbole particulièrement difficile à avaler pour l'image de l'armée russe. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que cette situation et comment et à quel rythme Vladimir Poutine va s'y prendre pour redresser la barre, au moins symboliquement?
Bon, de toute façon, très vite, il revalorise l'armée, c'est certain, dans son discours. Il faut restaurer les capacités militaires. Il arrive aussi sur fond, non seulement de nouveaux départs de la guerre en Tchétchénie, mais aussi après l'intervention de l'OTAN pour régler le problème du Kosovo en 1999. Et ça, ça a été un choc pour les Russes. Et c'est à partir de ce moment-là que, quand même, plus évidemment la problématique de l'élargissement de l'OTAN, on commence à reparler de l'Occident comme potentielle menace, etc. Alors, pas avec la même acuité et la même densité qu'aujourd'hui, mais c'est quand même un tournant dans la perspective russe. Et donc, pour Poutine, il est certain que pour peser face à un Occident dont il estime que, finalement, il recourt assez facilement à la force pour régler des problèmes selon son intérêt, eh bien, il faut que l'armée russe ait une capacité militaire digne de ce nom. Et justement, il dit, ça ne peut pas passer que par le nucléaire. Il faut redorer aussi le blason des forces conventionnelles, et c'est peut-être même prioritaire.
Bon. Soit dit en passant, on a vu que très récemment, ils ont célébré, ils ont signalé, disons, l'anniversaire des deux décennies de l'intervention occidentale au Kosovo, pour dire, voilà, c'était la première intervention non déclarée, etc. Ce qui montre bien que dans la psyché, en tout cas militaire et stratégique russe, il y a un truc qui se passe là-dedans, à ce moment-là, si on laisse la bride sur le cou des Américains, des autres, occidentaux, des otaniens, disons d'une manière générale, ils galopent, quoi.
Voilà, c'est ça. Enfin, ils disent, les Russes, on nous a parlé de démilitarisation des relations internationales, mais si nous regardons les tendances du jeu militaire international à cette période-là, c'est pas ce qu'on observe. Et évidemment, ce qui va se passer ensuite avec l'Irak en 2003, ça va alimenter cette vision qu'ils en ont, sachant que d'une façon générale, tout ce qui est risque occidental, à cause de la guerre froide, mais aussi pour des raisons historiques qu'on n'a pas le temps de développer ici, c'est quand même le point sur lequel ils sont fixés assez traditionnellement. Donc l'intervention de l'OTAN qui s'élargit et qui en plus ne passe pas par le Conseil de sécurité où la Russie a un mandat, donc elle aurait pu utiliser son veto, c'est un tournant dans la perception que finalement le partenariat avec l'Occident, ça va pas être si simple que ça. Ils en avaient aussi une vision peut-être différente de la nôtre, c'est-à-dire que nous, on a pensé que les Russes étant dans une situation de faiblesse, ils étaient dans une posture d'alignement, et c'était d'ailleurs assez confortable pour nous, ce qui fait qu'on n'a peut-être pas assez réfléchi les signaux qu'ils nous envoyaient. Et eux, de leur côté, c'était l'affaire du Kosovo, ça montre bien que l'OTAN est une alliance offensive, agressive, etc., etc. Bon, et puis après, il y a tous les arguments aussi plus internes, c'est-à-dire que mobiliser la menace de l'OTAN dans l'alliance dans laquelle vous avez les États-Unis et leur puissance militaire, c'est quand même plus payant que peut-être les conflits locaux dans le voisinage faire l'unité, mais tout
d'une
ça
manière
va ensemble,
générale,
en fait.
C'est pas inintéressant de voir que Poutine se saisit de ça dès son début. Enfin, on sait qu'il n'y a pas tellement meilleur moyen d'unifier un peuple derrière soi que de faire une guerre, en tout cas d'invoquer le risque militaire ou stratégique. Et de fait, c'est ce que fait Poutine dès le début, tant en Tchétchénie qu'avec l'affaire du Kosovo.
Oui, et en même temps, je dirais qu'il faut être prudent sur l'idée. Il ne faudrait pas ramener ce que disent les Russes sur l'OTAN et la menace que ça fait peser, selon eux, sur leur sécurité uniquement un jeu d'instrumentalisation politique pour l'interne. C'est une dimension qui existe tout à fait, et vous avez bien fait de le souligner. Mais c'est pas que ça.
C'est pas que un jeu cynique, s'il y a un vrai truc.
Voilà, il y a vraiment la perception que l'OTAN qui se rapproche des frontières de la Russie, quelles que soient les assurances qu'on a pu leur donner, il y a quand même eu un vrai effort pour les rassurer. J'ai pas le temps de le développer non plus, mais il y a quand même eu des choses qui ont été faites pour accompagner ce mouvement d'élargissement de l'OTAN. Mais vous ne pouvez pas faire admettre aux Russes que l'alliance qui se rapproche de leurs frontières, c'est quelque chose qui ne pose pas un problème de sécurité, parce que pour eux, c'est le glacis de sécurité qui se réduit, c'est l'alliance militaire la plus puissante, dans laquelle il y a les États-Unis qui ont une nature interventionniste. Leur vision est celle-là, et je pense qu'on ne peut pas tout résumer à un jeu politique pour faire l'unité autour du chef, même si ça aide, bien évidemment.
Ouais, mais alors donc, menace stratégique, volonté poutinienne de revaloriser l'armée, de la reprendre en main. On peut signaler que, et vous le détaillez très bien dans le livre, qu'il y a une sorte de traumatisme de la guerre de Tchétchénie de 99-2000 où Poutine s'aperçoit qu'en fait il n'y a aucune unité qui prête à intervenir et que donc c'est un immense. C'est que ça sert à rien d'avoir une armée de plus d'un million de personnes si on ne peut pas l'envoyer, quoi. Et donc, on tente, quoi, pendant le début de cette décennie 2000, de colmater les brèches et, disons, de remanier la chose.
Ouais, si vous voulez dire qu'il y avait plein de raisons pour Poutine de trouver qu'il était temps de faire quelque chose, ça c'est vrai. Et aujourd'hui, on peut parler effectivement de poids énorme du militaire dans le discours russe, dans l'économie russe, etc., etc. Mais si on regarde le point de départ, il y avait quand même un sacré chantier qui est pas illégitime de réparer, hein. Ça c'est tout à fait exact. Donc c'est vrai que à partir de 2000, il commence à y avoir des projets de réforme. Mais voilà, l'armée russe, elle est encore en transition. Elle fait de la résistance aussi. Et ça, c'est intéressant parce que je pense qu'on l'a moins vu, moins lu. C'est que Poutine, d'un côté, il assume, il est le commandant en chef, et à l'occasion de la deuxième guerre en Tchétchénie, il assume vraiment les responsabilités. Donc ça, pour les militaires russes, ça fait une sacrée différence. Mais on voit que très vite aussi, il va passer le contrôle de ses opérations vers le FSB, donc le service de sécurité, et le ministère de l'Intérieur. D'abord parce que ça permet de valider l'idée que ce qui est en train de se passer là, c'est plutôt du contre-terrorisme. Ça, c'est le premier point. Mais aussi parce qu'il voit que l'armée utilise son intervention et sa participation à cette lutte contre les rebelles tchétchènes qui sont entre-temps devenus les terroristes. Je mets les guillemets parce que on les voit pas. Je les précise parce qu'on les voit pas. Voilà.
Ouais, mais on peut citer que c'est par ailleurs cette phrase, cette saillie dont on se souvient souvent, mais qui est à ce moment-là, quoi, de buter les terroristes jusque dans les chiottes.
Mais ça.
Bon, ça dit aussi quelque chose de Poutine, de son passé lui-même qui vient du KGB, FSB, etc. Et de la manière dont on va traiter cette chose-là, ça va pas être une intervention militaire, même quand bien même ce serait sur le sol national. C'est du contre-terrorisme où, bon, en l'occurrence, tous les coups sont permis.
Il y avait plein de raisons pour lesquelles, en fait, il met aussi l'accent là-dessus. D'abord, c'est vrai qu'il y a eu une radicalisation des rebelles tchétchènes, ou en tout cas d'une partie d'entre eux, parce que la brutalité des actions militaires russes contre eux dans la première guerre. Un terreau favorable aussi à l'implantation d'éléments venus de l'extérieur qui viennent radicaliser effectivement la situation. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, pour Poutine, on est après le 11 septembre 2001, c'est très vendeur aussi de mettre le problème tchétchène dans la catégorie du terrorisme international. Mais il y a un troisième élément qui fait que Poutine, en fait, ne veut pas que l'armée monnaie son soutien, monnaie son intervention, parce que lui, il veut lui imposer une réforme. Et c'est intéressant de rappeler que Poutine, très tôt, il dit il faudrait une armée professionnelle, ce à quoi l'armée, à l'époque, elle était complètement opposée. Et donc, il veut quand même aussi renforcer l'autorité du pouvoir politique sur l'armée russe, parce qu'effectivement, dans les années 90, on a vu des mouvements de militaires se développer, pour toutes les raisons de mécontentement que j'ai évoquées tout à l'heure. Et lui, il est du KGB, et lui, son rôle, c'est renforcer l'État et limiter tous les risques, finalement, pour l'État. Et un de ses chantiers, c'est justement de renforcer le contrôle du pouvoir politique sur l'armée, qui, d'un côté, elle va quand même essayer encore d'éviter des réformes structurelles de fond pendant un certain temps. Et en même temps, elle admet mieux, finalement, les réformes qu'il veut progressivement lui imposer, parce qu'il assume les responsabilités de commandant en chef. Donc, à nouveau, servir l'État pour les militaires russes, ça correspond à quelque chose de plus construit, de plus logique, de plus traditionnel. formelle, on va dire. Donc dans les années 2004-2008, il y a différents projets qui sont mis en œuvre, mais il y a ces négociations permanentes, bras de fer un peu avec l'institution militaire. Et puis, effectivement, il y a plus d'argent qui rentre dans les caisses, parce qu'à ce moment-là, Poutine a été aidé par ça à beaucoup d'égards. Les hydrocarbures qui sont à des niveaux élevés pendant quasiment toute la décennie 2000, donc ça lui permet quand même de commencer à passer des commandes d'équipements à l'industrie d'armement, etc. Mais voilà, c'est encore une phase de transition. Il y a des plans de réforme, mais il y a aussi de la résistance. Et puis il y a cette guerre en Géorgie en 2008.
C'est ça, j'allais dire. C'est le chapitre suivant, enfin le point marquant suivant, c'est cet épisode dont on se souvient souvent comme une victoire russe. Et souvent, on le voit, on le relie un peu comme le début d'une politique extérieure plus offensive de la part de la Russie, en tout cas dans son voisinage immédiat. Mais on comprend en vous disant que cette intervention militaire, donc en Géorgie, en 2008, enfin en Ossétie du Sud, en fait, ça marque plutôt les limites nettes encore des capacités opérationnelles de l'armée russe, plus qu'une victoire, que c'est. Enfin, c'est une victoire, mais bon, contre la Géorgie, c'est pas non plus le... Voilà. Non, mais... Ne soyons pas désobligeants pour l'armée géorgienne, mais c'est pas non plus la victoire stratégique du siècle. Mais c'est aussi le moment où on se rend compte que même après une décennie où on essaie d'inverser la courbe, en fait, ça marche toujours pas, ou en tout cas très largement, la capacité manœuvrière et opérative de l'armée russe est très très restreinte.
Tout à fait. C'est un peu ce qui est, ça a été à la fois un constat douloureux, mais aussi pour Poutine, c'était l'occasion de dire alors maintenant on peut plus reculer, donc on va faire. On va faire vraiment la réforme, et ceux qui ne sont pas d'accord, ils seront priés de quitter les lieux. Et on avait déjà vu qu'il avait l'intention de le faire, puisqu'en 2007, donc un an avant cette guerre en Géorgie, qui donc, comme vous l'avez dit, est une victoire stratégique pour les Russes, d'autant plus qu'ensuite ils ont pu installer des bases militaires supplémentaires dans les territoires séparatistes de Géorgie, Ossétie du Sud et Abkhazie, ce qui quand même leur donne plus de surface stratégique dans le Caucase. Donc ça, tout ça, c'est bénéfique, mais en termes opérationnels, l'armée russe, elle a plus été ridicule qu'autre chose dans cette intervention. Et bon, trop, c'est trop. Donc, en 2007, Poutine avait nommé à la tête de l'armée, à la tête du ministère de la Défense, plus exactement, quelqu'un qui n'avait pas du tout un profil militaire, qui avait fait une grande partie de sa carrière dans l'industrie du meuble et qui, avant, était à la tête de l'administration fiscale. Donc, le message était quand même assez clair. Là, je mets un gestionnaire, je vais mettre plus d'argent dans les forces, mais je ne veux pas que ça parte en corruption. Et malheureusement, le schéma existe toujours, mais enfin, à l'époque, on voulait investir beaucoup dans l'armée, donc on voulait quelqu'un qui allait mettre de l'ordre, au moins au niveau des finances, et qui n'allait pas avoir non plus d'arrière-pensée en restructurant fondamentalement l'appareil militaire. Donc c'est des coupes sombres dans le corps des officiers, on réduit tous les appareils...
Disons-le, c'est l'ouverture d'un chapitre qui est très intéressant dans l'histoire de l'armée russe, donc avec cette série de réformes très nettes, qu'on a souvent appelées donc, les réformes Serdioukov, donc du nom de ce fameux ministre de la Défense. Donc voilà, de quoi est-ce qu'il part et comment est-ce qu'il s'y prend pour sabrer, disons,
là-dedans. Il s'y prend, il n'écoute pas les militaires. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que c'est un des éléments qui feront qu'il sera limogé au bout du compte, mais Poutine le soutiendra pendant 5 bonnes années quand même. Donc, c'est qu'en gros, il partageait le projet Serdioukov, qui l'avait dû concevoir en discussion avec Poutine et quelques autres personnages haut placés dans le processus de décision. Il est là pour faire le ménage et il n'est pas du sérail militaire. Il a très peu d'expérience militaire, à part peut-être le service national.
Et ça, c'est donc, très intéressant aussi. Si on veut quelqu'un qui réforme tout, c'est bien d'avoir quelqu'un qui n'a pas de fidélité, d'allégeance à une branche des armées ou à certaines unités. Voilà. Si on veut quelqu'un qui sabre... Parce que si on commence à oublier certaines unités, ça s'étend toujours. Donc il faut quelqu'un, dans une certaine mesure, qui vienne complètement de l'extérieur, avec aussi tous les problèmes que ça pose
retour. C'était le calcul, à mon avis, de Poutine. Et ce Serdioukov, il vient avec plusieurs amis, collègues, en tout cas collaborateurs de l'administration fiscale qu'il dirigeait auparavant, et ils viennent mettre de l'ordre dans les finances. Et là, l'armée, elle est choquée. Il y a même eu beaucoup de débats dans la presse russe qui critiquaient le président pour la brutalité des méthodes employées. Le corps des officiers est très fortement réduit.
Ouais, mais alors ça, je vais juste le dire parce que c'est...
Allez-y.
Bon, alors, il y a... Alors, disons, il y a la corruption, évidemment, mmh. on lutte contre la corruption. Ouais. Il y a aussi, il va falloir rationaliser le nombre de bases, d'emprises, mmh. il va bien falloir sûr. Vendre un certain mmh. nombre de trucs, mais ce qui va faire rentrer de l'argent, ce qui va être mmh. plutôt une bonne chose.
Et faire des économies.
Mmh. Oui, faire des économies. Et alors, c'est très c'est fascinant, la diminution du nombre d'officiers. Vous écrivez qu'en 2007, on estimait que le ratio était de 2 officiers pour 2,5 hommes de troupes non officiers. Ce qui est, j'ai cru à une coquille, en fait, vous le disiez
non,
au
non,
début.
Non, non, j'ai vérifié plusieurs fois.
Il faut signaler que dans la plupart des armées occidentales, on est plutôt sur un ratio de 1 à 15, et là, on était 2 pour 2,5. C'est incroyable, disons, l'espèce d'obésité du corps des officiers qu'il y avait dans l'armée.
C'est ça. Et d'ailleurs, un des grands objectifs des réformes Serdioukov, ça va être de mettre fin à ce qu'était la structure de base, finalement, de l'armée russe. On appelait ça les divisions squelettes, où finalement, ces divisions, elles étaient composées de ces fameux officiers, qui étaient là surtout pour garder les bases et les dépôts d'armes qu'elles contenaient, et qui, en cas de mobilisation, ces divisions squelettes auraient été remplies par la réserve et par les conscrits, etc., etc. Donc on a vu que ça...
Donc les seuls permanents, c'était les officiers, avec l'idée que s'il y a besoin, on remplit, on met
ça.
De la piétaille.
C'était ça. Et ben ça, on y met fin, parce qu'on a remarqué que ça ne marchait pas trop. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, Poutine, pour la deuxième guerre en Tchétchénie, il s'aperçoit qu'il peut rien déployer de manière immédiate. Et donc ça lui pose un véritable problème, il veut plus vivre ça. Il a dit je n'oublierai jamais ça, donc ça veut dire je veux vraiment éviter que ça se reproduise. Donc c'est vraiment, on remet tout à plat. Je crois que j'ai parlé de coup de pied dans la fourmilière dans l'ouvrage. Et Serdioukov, bien lui, il n'a pas d'état d'âme. Il a un mandat de Poutine, parce que Poutine l'a soutenu jusqu'au bout. Il a peut-être un peu trop gratté l'industrie d'armement. C'est plutôt ça qui lui a coûté son poste, parce que en parallèle, il dit bon ben puisque l'industrie, elle est rouillée et qu'elle ne fait pas ce qu'on lui demande. Nous, on va aller acheter à l'étranger parce que, voilà, il faut de l'efficacité maintenant. Donc, ces méthodes-là, elles ont produit un début de réforme. Il faut se souvenir aussi que l'idée, à l'époque, c'était une armée plus mobile et plus capable, finalement, d'intervenir dans des conflits, toujours ces conflits limités, dans le voisinage, etc. Alors, aujourd'hui, on a un peu changé le fusil d'épaule, même si cette hypothèse-là, elle reste importante. Mais l'idée, voilà, c'est d'avoir une armée plus mobile, plus professionnelle, et puis qui accepte enfin la réforme. Et ça, c'est fait.
Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя.
C'est peut-être justement désormais l'occasion de parler un peu de la structure de l'armée russe, qui est, on a bien compris qu'elle est remaniée notamment à ce moment-là, mais bon, qui dans ses grandes composantes, enfin dans ses originalités, a quand même beaucoup de points communs avec l'armée des années 90 et d'avant. D'abord, il faut peut-être parler de ses dimensions. C'est une armée qui en fait est immense, et peut-être qu'on le répète pas assez, mais l'ordre de grandeur global, c'est environ 1 million de personnes. C'est compliqué d'avoir un chiffre exact, parce qu'il y a plein de catégories différentes. Mais il n'y a pas beaucoup d'armées plus... Enfin, il y a la Chine, la Corée du Nord en pourcentage, mais c'est une armée qui est gigantesque en termes d'effectifs totaux, quoi.
Alors, 1 million, c'est l'objectif officiel en termes de personnel combattant, sachant que derrière, il y a encore quasiment 1 million en personnel administratif, tout le ministère de la Défense. Après, la plupart des experts, mais comme vous le soulignez, là, on a un problème méthodologique évident, Il y a quand même une grande fourchette et certains pensent que ce serait plus proche de 700 000 et ça va jusqu'à 900 000. En tout cas, la plupart s'accordent à dire qu'on n'est pas tout à fait proche du 1 million, mais effectivement, c'est une armée de bonne taille, c'est certain.
Mais alors, là où ça peut être variable, etc., et la raison pour laquelle ça peut être flou aussi, c'est que c'est une armée, il faut le dire maintenant, qui repose beaucoup sur la conscription, donc sur un service militaire obligatoire et en même temps pas si obligatoire, ce qui est une partie du problème. Mais c'est-à-dire, l'idée, c'est qu'il y a 300 000 environ jeunes gens qui, chaque année, entrent et sortent de l'armée. Ce qui est pas forcément... Alors, ce qui est très lié à l'image que les militaires russes font de leur armée, etc., c'est ce qui est très important, mais qui est pas forcément très populaire, et ça depuis très longtemps, déjà à l'époque de l'URSS, c'était très très mal vu, notamment en raison du traitement des conscrits. Enfin, il semble que, enfin bon, la vie d'appelé dans l'armée russe n'était pas forcément dans l'armée soviétique, puis dans l'armée russe, n'était pas forcément extrêmement plaisante.
Oui, alors la question de la conscription, c'est vrai. Pour l'instant, l'armée russe est une armée de recrutement mixte avec une partie de conscrits. Alors, en 2008, le service militaire a été réduit à un an,
ce qui veut dire que de 2 ans à 1 an.
De 2 ans à 1 an, oui, tout à fait. Ce qui veut dire que quand même, l'armée de terre, elle est composée en grande partie de conscrits qui ont un entraînement extrêmement sommaire. Et on peut rappeler que Poutine, au début des années 2000, lui, il voulait une armée entièrement professionnelle, mais il a dû... D'abord, les militaires n'étaient pas d'accord, mais surtout, ça coûte beaucoup plus cher. Et donc, pour l'instant, on reste sur ce mode de recrutement mixte.
Mais ça... on peut dire aussi, peut-être, que c'est... Enfin, on en reparlera, mais c'est pas forcément totalement délié, disons, des contraintes stratégiques et défensives, qui est qu'il y a un territoire qui est absolument gigantesque. Si on considère qu'il faut le défendre, il y a 22 fronts possibles par où sans entrer dans le territoire russe. Bon, il y a la défense dans la profondeur, l'idée qu'on peut se retirer un peu, etc. Mais quand même, il faut beaucoup de monde pour défendre tracé de frontières complètement délirant, quoi.
Bah, surtout quand vous avez la psyché russe qui intervient là-dedans, ou quand même assez traditionnellement, hein, je ne sais pas moi qui vais vous expliquer le syndrome de la forteresse assiégée, mais en plus, assez classiquement, vous avez dans la pensée stratégique russe l'idée que l'invasion de toutes les directions possibles, ça reste quelque chose d'assez tangible. Hein, la menace, elle vient de partout. Alors, elle est plus nette à l'ouest, bien évidemment, mais le sud, il est fragile. Et à l'Est, on ne sait pas trop de quoi l'avenir sera fait, etc. Donc oui, effectivement, on pourrait considérer que le 1 million affiché, ben finalement, c'est pas du luxe par rapport à cet immense territoire qu'est celui de la Russie. Donc aujourd'hui, voilà, l'idée, c'est d'avoir plus de soldats contractuels. Et ça, effectivement, comme les budgets sont plus importants, les Russes, contrairement au premier temps, dans les années 2000, il n'y a pas grand monde qui voulait y aller. Ceux qui voulaient y aller, ce n'était pas forcément le meilleur de la société. Mais par la suite, le pouvoir russe a pu augmenter finalement les soldes proposés à ses soldats contractuels qui viennent d'abord pour un an et puis après on espère qu'ils renouvellent, etc. Et on essaye de les mettre dans les unités où on estime avoir le plus besoin de soldats professionnels. Alors ça va des unités des forces stratégiques, nucléaires stratégiques, en passant par la marine, l'infanterie de marine, les forces spéciales, les forces qu'on veut déployer rapidement, etc.
Puis ceux qu'on pourrait être amené à envoyer ici ou là rapidement pour un besoin défensif ou offensif d'ailleurs ponctuel, quoi.
Voilà, c'est ça. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 2015, le nombre de soldats sur contrat est devenu supérieur au nombre de conscrits. Hein. Alors là, j'avais quand même ma petite anti-sèche avec les chiffres. Sur l'année 2020, on avait 405 000 à peu près soldats sur contrat contre 225 000 conscrits. Et donc depuis 2015, en fait, cette proportion, où on a plus de contractuels, elle domine en fait. Et ça c'est la nouvelle armée russe. L'idée étant d'éviter le plus possible de déployer des conscrits dans des situations de combat, en fait, pour éviter la répétition de ce qui s'est passé en Afghanistan, il fut un temps, en Tchétchénie, il n'y a pas si longtemps, parce que c'est pas bon pour l'image de l'armée dans l'opinion publique. Et sur le service militaire dont vous parliez, il faut être prudent là-dessus. Alors c'est vrai qu'il y a quand même nettement une amélioration des conditions du service militaire. Mais il faut dire qu'on partait de très très loin, puisqu'on parlait de mauvais traitements. C'était parfois des brimades, il y avait beaucoup de suicides liés à ces mauvais traitements, dont les conscrits faisaient l'objet dans les unités. Et c'était à l'époque où il n'y avait pas de corps professionnel de sous-officiers. Donc ça voulait dire que, du temps où le service militaire durait 2 ans, que les nouveaux venus, les nouveaux conscrits, étaient pris en charge par ceux qui avaient déjà 1 an de service militaire et qui avaient tendance à s'en servir un peu comme des esclaves modernes. Les officiers jouaient aussi également ce rôle-là. Et donc, il y avait vraiment des brimades, des très mauvais traitements, etc. Là, il y a quand même eu un vrai effort qui a été fait ces dernières années sur ce sujet-là, parce qu'on voit bien qu'il y avait beaucoup de désertions. Donc, on essaie d'avoir un peu plus de conscrits. Et même le comité des mères de soldats, qui se sont beaucoup illustrés, notamment dans le contexte de la guerre en Tchétchénie, pour essayer de savoir où était passé tel ou tel conscrit, est-ce qu'il était mort au combat en Tchétchénie, etc. Et ils ont beaucoup de comités dans toute la Russie. Et le comité au niveau national reconnaît qu'il y a vraiment une amélioration des conditions du service militaire. Mais il y a quand même quelque chose d'inégalitaire dans ce service militaire, qui est que finalement, les familles plus aisées et souvent mieux éduquées, il y a beaucoup de situations qui leur permettent d'éviter d'envoyer leurs jeunes faire leur service militaire dans l'armée russe. Et donc aujourd'hui, on a la fameuse armée de paysans et d'ouvriers. C'est un peu ça aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup des gens qui font leur service militaire aujourd'hui, c'est plutôt des gens qui viennent de familles plutôt modestes, pas forcément très éduquées, etc. Donc il y a toujours une disparité.
C'est un peu le lot de tous les services militaires, par ailleurs, que de commencer par un recrutement très large et de finir par être très inégalitaire. Toute ressemblance avec un pays proche de nous serait purement fortuite. Mais c'est tant qu'on parle de la composition, de la ventilation, disons, de l'armée russe, c'est peut-être le moment de dire un mot d'un sujet qui est très actuel, c'est la montée en puissance de forces plus grises, peut-être, dont les plus célèbres, la plus célèbre, c'est sans aucun doute le groupe Wagner, qu'on qualifie parfois de paramilitaires ou de mercenaires qu'on voit agir en Syrie, en Ukraine, en Libye, etc. Alors, c'est une question très complexe et il faudrait y consacrer plusieurs émissions. Si tant est d'ailleurs qu'on ait forcément les sources premières là-dessus, ce qui n'est pas évident du tout, puisque c'est quelque chose d'assez nouveau, on n'a pas forcément énormément de sources. Mais, disons, qu'est-ce que ça dit, cette montée en puissance-là, et qu'est-ce que ça dit notamment de la manière dont l'armée russe se recompose et se...
Alors, comme vous mentionnez tout à l'heure, mon collègue Emmanuel Dreyfus, lui-même a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Alors, c'est vrai qu'initialement, ce qui était assez flou, c'était comment finalement les militaires russes voyaient le rôle des sociétés militaires privées, là aussi avec les guillemets qu'on ne voit pas, parce qu'elles étaient proches du pouvoir politique. Et finalement, il semblerait que l'armée en a pris son parti parce que, encore une fois, elle n'a pas forcément une quantité énorme d'hommes à déployer sur des terrains où il faut déployer des hommes. C'est un plus, en fait, dans la boîte à outils pour intervenir sur des terrains où on veut intervenir. Parfois, c'est plutôt politique. On le voit, vous l'avez mentionné, il n'y a pas que la Syrie, donc il y a l'Afrique, on voit la Russie. Quand on parle de présence militaire et sécuritaire russe, bien souvent, c'est plutôt la société Wagner ou quelques autres, que les forces régulières relevant du ministère de la Défense. Donc le ministère de la Défense...
C'est toujours un peu compliqué de savoir d'où viennent les gens de Wagner, parce que souvent c'est des anciens
militaires
russes.
D'anciens militaires, oui, ça c'est vrai.
Qui étaient là il n'y a pas si longtemps, qui ont de toute évidence des matériels qui ne sont pas très très loin de ce qu'ils utilisaient il n'y a pas très longtemps. Enfin bon, c'est compliqué de considérer que c'est... on ne pouvait pas le voir, mais vous avez fait des guillemets avec les doigts au moment de dire des sociétés militaires privées.
Ouais, c'est pas très privé.
C'est pas très privé, et clairement, c'est pas non plus... c'est pas Blackwater, quoi.
Enfin, pas du tout Blackwater, et l'idée, c'est plus un complément dans la panoplie d'outils du pouvoir russe comme outil d'influence, et aussi pour l'armée, finalement, ça peut être très pratique que ce soit plutôt les Wagner qui soit en train de sécuriser tel ou tel endroit, parce que, encore une fois, l'outil militaire russe, il a encore ses contraintes, on a vu d'où il venait. Et donc, si on peut avoir cette utilité supplémentaire, et en plus, on peut dire que cette société militaire, elle a mal joué tel ou tel coup, donc ça permet aussi à l'armée russe de ne pas avoir son blason abîmé, écorné par des opérations qui se passent pas très très bien. Et pour le pouvoir russe, c'est certain que les forces Wagner, ça permet d'être présent dans des pays en Afrique, prix, que si ça peut embêter les Français, c'est pas mal non plus. En Syrie, ça permet aussi de remplir d'autres missions et finalement, ça permet de limiter le nombre de militaires qu'on déploie sur le terrain. Et quand ça se passe mal pour les forces Wagner, c'est moins coûteux politiquement que quand ça concerne les forces du ministère de la Défense. Et finalement, l'armée, elle a tout à y gagner aussi en termes d'image, parce que finalement, elle a moins souvent des ennuis sur le terrain.
Et puis on peut dire par ailleurs que c'est un processus qui est connu en sociologie, qui existe dans plein de trucs, ce qu'on appelle la légitimation par différenciation. Ça permet de trouver qu'il y a une unité parente qui fait les choses plus mal que soi-même. C'est toujours une bonne manière de se faire...
De rehausser sa propre
image. Oui, c'est ça, de dire que l'armée russe est très...
opérationnelle.
Ouais, c'est ça, et très professionnelle, etc. Mais justement, peut-être dernier mot là-dessus, il faut peut-être reparler de... Toujours dans cette remise en route, remise en efficacité, quoi. Il faut peut-être parler du fait que vous détaillez très bien dans le livre, que c'est une armée qui s'entraîne de plus en plus, qui fait de plus en plus d'exercices, alors que pendant très longtemps ça a été un problème, qui est de plus en plus inspectée aussi, ce qui a été un problème pendant longtemps. Donc il y a une sorte de reprise en main, disons au quotidien, quoi, dans ce que doit faire une armée moderne au quotidien pour pouvoir être efficace sur un théâtre extérieur.
Oui. Alors ça, c'est venu un petit peu plus tard. On a parlé des réformes Serdioukov. Là, on va plutôt sur Shoigu, en fait, qui est le successeur
À partir de 2012.
De 2012, c'est
qui remplace Serdioukov, qui, très ironiquement, tombe pour corruption.
Oui.
C'est la Russie, c'est magnifique. Donc il est remplacé par un nouveau ministre qui s'appelle Shoigu, qui lui donc lance une deuxième vague, totalement dans la même philosophie, mais une deuxième vague de réformes.
Voilà. Alors déjà, il recrée un certain nombre de postes d'officiers. Il parle de la brutalité de son prédécesseur dans la façon de mener certaines réformes. Il explique qu'il va écouter les militaires. Et c'est vrai que visiblement, il cherche davantage de dialogue avec les militaires. Mais en même temps, ces militaires-là, ils ont compris maintenant que c'était plus le temps de faire de la résistance, etc., aux réformes demandées par le pouvoir politique. Donc voilà, c'est un échange de bons procédés. Et donc, une des choses que Shoigu, une fois que les nouvelles structures ont été mises en place, il est revenu sur certaines des réformes, notamment en recréant certaines divisions, alors que sous Serdioukov, l'idée, c'était que l'unité de base pour l'armée de terre, c'était la brigade, parce que c'est plus souple d'emploi, c'est plus rapide à déployer sur un terrain d'opération, etc. Lui, parce que aussi le contexte s'est beaucoup détérioré avec les Occidentaux, il recrée des divisions donc dans le district militaire ouest, aussi à la frontière avec l'Ukraine, parce qu'il faut voir aujourd'hui que les militaires russes n'excluent pas du tout un jour une reprise des hostilités. D'ailleurs, c'est assez d'actualité par rapport à la situation d'aujourd'hui.
On en dira peut-être un mot tout à l'heure. Ouais.
Tout à fait. Et puis aussi par rapport à la Chine, on a une ou deux divisions qui ont été recréées également dans la partie orientale du territoire. Donc l'idée, c'est bien sûr, on continue à miser surtout sur des conflits locaux. Mais voilà, on sait aussi qu'un conflit local, si des puissances extérieures s'en mêlent, ça peut devenir un conflit régional, etc. Donc il est revenu un petit peu en termes de structure là-dessus. Et comme tout ça est consolidé, l'idée c'est maintenant de voir comment ça fonctionne, faire travailler ces forces entre elles, rattraper le retard notamment sur le combat interarmé, parce que ça, les Russes, ils l'ont pas beaucoup pratiqué dans les années précédentes. Et puis comme vous le disiez, d'une manière générale, dans un contexte de budget limité pour la défense, l'entraînement c'était vraiment le parent pauvre, encore plus que l'équipement, c'est dire. Et donc l'armée est rééquipée, l'armée est réorganisée, l'idée c'est de voir comment elle fonctionne. Donc plus d'exercices, notamment, alors c'est plutôt vers la fin des années 2000, mais les inspections surprises se multiplient à partir de 2013. Et l'idée, c'est vraiment, on fait à chaque fois un retour d'expérience sur ce qu'on a vu comme défaut. Et on essaye de le corriger dans la prochaine. Et c'est tous les districts militaires qui sont régulièrement mis en action. Il y a également la reprise des exercices stratégiques avec un exercice stratégique par an, où là, on fait travailler ensemble les différents districts militaires, les différentes flottes. Et donc, il y a vraiment un vrai effort là-dessus, avec un retour d'expérience à chaque fois pour corriger et améliorer les pratiques opérationnel. Et ça a quand même joué son rôle certainement dans la façon dont les opérations en Syrie ont été orchestrées. Et c'est ça, en termes qualitatifs, c'est un vrai plus. Il y a aussi beaucoup d'efforts pour essayer de travailler la mobilité stratégique Évidemment, avec le territoire qu'ils ont, ils peuvent jouer à ça assez facilement. Donc, des déploiements de force sur des kilomètres et des kilomètres. Donc, ça, c'est vraiment un des points centraux de... C'est pas la réforme de structure, là, mais c'est vraiment, on se teste, on voit ce que ça donne et on corrige et on répare derrière si ça ne fonctionne pas bien. Donc, ça, c'est un point très important, je pense, de l'évolution des forces russes ces dernières années.
Alors évidemment, ensuite, cette évolution, cette restructuration de l'outil militaire va naturellement de pair avec son utilisation. Ce qui nous amène naturellement à parler des différents théâtres où on a vu de plus en plus cette armée russe depuis 2008, mais bon, surtout depuis 2013-2014, ce qui nous amène donc à parler, disons, de l'envergure stratégique depuis la dernière décennie et au-delà de ses relations extérieures. Et pour ça, j'aimerais simplement qu'on décentre un peu notre regard et qu'on arrête 5 minutes de voir tout ça sous l'angle de l'agression russe, une politique expansionniste, revancharde, etc. Ce que c'est certainement un petit peu, mais c'est pas que ça, quoi. Et donc ce que je veux dire, c'est que j'aimerais qu'on entre un peu dans la stratégie russe, du point de vue même logique, sans la peindre tout de suite en noir. Et donc, voilà, la question c'est qu'est-ce qui se passe, qu'on fait souvent remonter à 2 minutes, mais surtout à l'intervention en Ukraine début 2014, pour que les relations avec les puissances occidentales se modifient à ce moment-là, même dans le ton, dans l'attitude. C'est-à-dire, est-ce que c'est que l'outil militaire permet à nouveau des choses, désormais qu'on peut donc reprendre l'offensive? Ou est-ce que c'est plus vu, disons, comme une réaction à ce qui se fait à l'Ouest? On a parlé du Kosovo, mais je pense notamment à la Libye en 2011, où on sait que la Russie et la Chine aussi d'ailleurs ont très moyennement apprécié l'intervention militaire occidentale qui débordait... un peu, voire beaucoup, du cadre onusien qu'ils avaient accepté, et qu'ils ont donc clairement pris pour un débordement unilatéraliste, disons, des puissances atlantiques. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe en 2013-2014, et au bout de quel processus est-ce que ça arrive, quoi ?
Alors, c'est pas la partie avocat du diable, mais presque, si j'entends bien. Sur 2013-2014, c'est l'Ukraine. Donc l'Ukraine, c'est déjà, si vous regardez les grands cadres de la pensée stratégique russe, je pense qu'on, d'abord, il y a la part historique hein, de comment les Russes conçoivent l'Ukraine dans le parcours historique de la Russie. On n'a pas le temps de développer ça, mais ça a pesé. Et puis surtout, et je crois que ce que la Russie a fait en Géorgie dans son rôle assez trouble hein, dans l'entretien des conflits dits gelés dans l'environnement proche, on voit bien quand même que la Russie a du mal à ne pas concevoir les pays issus de l'ex-URSS comme... Sa ceinture de sécurité comme des zones tampons par rapport à la menace extérieure. Ça, c'est un trait très caractéristique.
Ça peut être indépendant, mais il ne faut pas que ce soit hostile, quoi.
Voilà, c'est ça. Indépendant politiquement, mais ça veut dire qu'il faut quand même qu'ils acceptent que la puissance prédominante, parce que la Russie réagit beaucoup en grande puissance et petits pays, les petits pays ayant, dans la perspective russe, intérêt à comprendre quel est leur intérêt. Et leur intérêt, c'est de ne pas aller frontalement contre les intérêts de la grande puissance. puissance dans l'environnement de laquelle ils se trouvent. Et pour la Russie, eh bien, les pays du voisinage, certes, ils sont indépendants, mais quand même peut-être un petit peu moins autonomes que les autres, dans le sens où ils représentent l'environnement stratégique immédiat de la Russie. Donc il y a toujours cette analyse en termes de zones tampons, c'est-à-dire ces États qui sont en fait, qui repoussent plus loin les frontières de la menace extérieure et qui protègent donc, qui sont censés protéger la forteresse Russie et ses centres névralgiques, politiques, économiques, etc.
Donc à partir du moment où cette grosse pièce qu'est l'Ukraine risque, si ce n'est de tomber, si ce n'est de se retourner, mais en tout cas que clairement on peut, les capacités d'intervention russes politiquement sont limitées. Ça pique, ça pique beaucoup et ça provoque une réaction, quoi.
Ça pique, et puis il faut le voir dans un temps un petit peu plus long. C'est-à-dire que, vu les Russes, les révolutions de couleur, la révolution orange en Ukraine, quelques années plus tôt, en 2004, il y a le soutien des Occidentaux. Alors la Russie a tendance à gommer l'aspect soulèvement populaire, spontané, de ras-le-bol contre les élites ukrainiennes de l'époque. Et ce qu'elle voit le plus, et ce qu'elle peut-être accentue, c'est la main de l'Occident. C'est-à-dire que les Occidentaux ont soutenu, ont affiché leur soutien aux gens en Ukraine. Donc il y a cette
alors,
idée...
Alors ça peut être vrai ou pas vrai, mais d'une certaine mesure, on ne prête qu'aux riches.
Il y a quand même cette lecture très... Ça, c'est important aussi, parce que quand on parlait de la doctrine Gerasimov, ça en fait quand même un petit peu partie. C'est-à-dire que les Russes disent, dans leur perspective, il y a une série de changements de régime ou tentatives de changement de régime, en plus dans des pays qui sont intéressants pour la Russie, qui sont des partenaires, qui sont des alliés, qui sont des voisins. Donc, ils vont vous parler de la Serbie, ils vont vous parler de l'Irak, ils vont vous parler de la Libye, comme vous mentionnez à l'instant, et des révolutions de couleur où, à chaque fois, c'est vrai, les Occidentaux ont soutenu finalement les gens qui manifestaient pour avoir un changement de régime qui se réalisait en faveur d'équipes dirigeantes plus favorables au rapprochement avec l'Occident. Et en Ukraine, ce projet d'adhésion à l'OTAN et ce projet de rapprochement avec l'Union européenne. Et si on regarde la crise de 2014 en Ukraine, elle est partie de là. Elle est partie du refus du président Yanukovych, non sans incitation et pression russe, de refuser finalement de suspendre en tout cas la signature de l'accord d'association avec l'Union européenne. Donc il y a cette perspective de la Russie sur l'Ukraine, avec l'idée que finalement l'Occident n'a de cesse de vouloir retirer à son influence ce gros morceau, comme vous disiez, ukrainien. Et ça, c'est la ligne rouge. Et les Russes ont voulu le montrer en Géorgie en 2008. Puisque la Géorgie est également candidate à l'OTAN, également dans le partenariat oriental de l'Union européenne, et l'Ukraine. Et je pense que c'est ça qui fait les interventions militaires russes en 2008 et 2014. C'est montrer que ces lignes rouges, elles sont très tangibles. Ça ne veut pas dire que j'approuve, mais je pense que dans leur perspective, c'est ça. Et en 2014, compte tenu de la façon dont la transition au pouvoir s'est faite à Kiev, les Russes se sont dit... Bon, la Crimée, d'abord, il y en a marre de devoir renégocier constamment présence en Crimée.
C'est-à-dire, il y a aussi le truc qui tape très fort, c'est la Crimée. Enfin, je veux dire, c'est la grande base de Sébastopol. Même d'un point de vue, on peut interpréter tant qu'on veut ce que ça veut dire politiquement, stratégiquement, annexion, etc., geste intolérable par rapport au respect des frontières. Il y a un truc de, s'il n'y a pas Sébastopol... La marine russe, c'est un problème gigantesque pour elle. C'est l'accès à la mer Noire par Sébastopol, c'est crucial, quoi. Donc
c'est crucial historiquement, c'est crucial d'un point de vue stratégique, c'est crucial à bien des égards. Et ils se sont dit, là, on ne peut pas risquer que le nouveau pouvoir à Kiev puisse installer, qui sait, un jour, une base OTAN, ou de toute façon, nous refuser l'accès à la Crimée. Parce que quand même, il y a beaucoup de négociations entre Russes et Ukrainiens depuis la fin de l'URSS sur la taille de la présence navale russe à Sébastopol, est-ce que la Russie a le droit d'y mettre, etc. Donc ils se sont dit, on se débarrasse du problème une bonne fois pour tous, en sachant qu'en plus on joue sur du velours du point de vue national. Poutine, qui avait bien perçu que quand même il y avait un essoufflement de son aura, parce que le côté économique était quand même beaucoup plus difficile depuis quelques années, depuis la fin des années 2000. Il y avait beaucoup d'avantages à cette solution, et donc le calcul risque-avantage a été au bénéfice de ce coup de force, en fait, en Crimée.
D'autant plus que les populations de Crimée, ça n'excuse rien, ça ne change rien au problème international et juridique, Mais c'est vrai que ce sont des populations extrêmement russophiles qui sont très rattachées culturellement et même économiquement à la Russie.
Et c'est
comme jouer au tennis sans le filet, quoi. Enfin, ça va marcher forcément.
C'est une des raisons pour lesquelles l'opération en elle-même, elle n'était pas très compliquée à réaliser, puisque sur place, la majorité de la population était plutôt favorable à ce qui se passait, et que les Russes avaient déjà des forces sur place qui ont été aidées après par l'arrivée d'hommes un peu bizarres, les gens polis ou les petits hommes verts, comme vous préférez, selon votre expression préférée, des forces spéciales qui sont venues donner un coup de main pour orchestrer cette opération. Mais voilà, c'est dans ce cadre stratégique que les choses se sont passées, en tenant compte donc de cette perspective stratégique que les Russes ont sur l'Ukraine, ont sur la Géorgie, qui depuis quelques années regarde vers l'Ouest. Les Russes ont dit c'est une ligne rouge. En 2008, l'OTAN dit un jour l'Ukraine et la Géorgie pourront entrer dans l'OTAN. Et depuis lors, la Russie n'a de cesse de montrer où se situe la ligne rouge.
Ouais, alors bon, on pourrait entrer un peu plus en détail. Mm-hmm. On en reparlera peut-être tout à l'heure du Donbass. Mais il y a un deuxième gros chapitre qui est important là-dessus, qui est la Syrie. Mm-hmm. Donc à partir de 2014-2015, l'intervention en soutien au régime de Bachar al-Assad, dont il faut toujours répéter qu'il était vraiment à deux doigts, deux cheveux de s'effondrer complètement, et c'est vraiment les Russes qui ont fait changer la situation stratégique. On a pas mal dit, ça a été une idée qui a été un peu reçue, que c'était le plus grand terrain d'entraînement du monde, que dans une certaine mesure, cette remontée en puissance de l'armée russe y trouvait un endroit où s'exercer, où voir ce que ça a donné. Alors, est-ce que c'est ça, ou est-ce que on peut dire quand même que ça répond à des intérêts plus stratégiques sur le plus long terme pour la Russie? Parce que, enfin, je veux dire, c'est aussi le danger d'en faire un truc purement cynique, de les Russes font ça pour embêter les Occidentaux, par pure cruauté, etc. Il y a aussi des intérêts dans la région, on en reparlera peut-être de la base de Tartous, mais c'est pas que un truc purement machiavélique du point de vue russe de vouloir soutenir un dictateur sanguinaire, quoi.
Non, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses, en fait. Là aussi, la masse d'intérêts possibles était supérieure à la masse de risques, en fait. Alors, un premier élément qu'on oublie souvent, c'est que depuis 2011, que vous mentionnez, la Libye et tout ce que les Russes en ont pensé, ils ont craint que ça puisse se renouveler, à tort ou à raison, mais que la Syrie puisse être un nouveau terrain. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas vu les Occidentaux montrer un grand appétit pour une intervention militaire qui aurait de nature finalement à aboutir à un changement de régime qui est devenu vraiment l'épouvantail majeur pour les Russes. C'est maintenant inscrit dans leur doctrine militaire, etc. Mais les Russes, eux, vous disent « Oui, mais tel ministre des Affaires étrangères occidentales, les Occidentaux, en fait, ont dit qu'il n'y avait pas de solution politique avec Bachar el-Assad. » Et donc ça, c'est le premier élément, c'est-à-dire position de principe. On fera tout pour empêcher la chute d'un, sous pression occidentale, la chute, surtout si c'est un pays qui est plutôt ami. Et c'est là qu'on arrive effectivement au régime syrien, qui est de longue date un des points d'appui de la Russie au Moyen-Orient. La base de Tartous, que les Russes n'avaient pas tellement envie de perdre, effectivement.
Donc la base de Tartous, président, c'est une base navale, donc qui donne sur la Méditerranée. Et c'est là que la très longue histoire russe est intéressante. Parce que de la même manière, pour la Crimée, c'était vrai, l'obsession des Russes depuis au moins le 19e siècle, voire bien avant, c'est l'accès aux mers libres et notamment l'accès à la Méditerranée. Et avoir une base en Méditerranée, ça permet, bon, c'est toujours l'histoire du contrôle des détroits, notamment, du Bosphore, mais c'est important philosophiquement, sur le très très long terme, pour les Russes, d'avoir un point de chute en Méditerranée, et ce point de chute-là, c'était Tartous.
Voilà, d'autant plus que pour les Russes, aujourd'hui, une puissance qui veut peser sur un plan global ne peut pas se permettre d'être absente du Moyen-Orient et de la Méditerranée. Donc si vous ajoutez cet argument à tout ça, voilà, élément supplémentaire pour comprendre pourquoi c'est important. Puis un autre élément, et ça j'emprunte l'expression à un autre collègue qui est Igor Delanoé, qui est spécialiste de la politique russe au Moyen-Orient, qui parle de continuum de sécurité entre le territoire russe, ses franges méridionales, donc Caucase, Asie centrale, et le Moyen-Orient. Et il y a cette vision des Russes que l'instabilité au Moyen-Orient, finalement, ne peut que rejaillir avec des infiltrations de combattants islamistes sur le territoire des républiques du Caucase ou de l'Asie centrale, et ensuite sur le territoire de la Russie. Et les Russes ont beaucoup mis en avant qu'il y avait effectivement un certain nombre de ressortissants russes qui sont allés rejoindre les rangs de l'État islamique en Syrie. Je ne dis pas que c'est le seul argument, mais si vous mettez ensemble tous ces éléments, eh bien, vous avez effectivement une sorte de série de facteurs qui ont encouragé la Russie à faire ce choix. Alors après, là où il y a du cynisme, sans doute, c'est que ça a été quand même une belle vitrine pour les nouveautés de l'industrie d'armement, qui ces derniers temps a quand même vécu des temps bien meilleurs que ceux qu'elle a pu vivre dans les années 90. Et c'est vrai que les Russes ont profité de cette opération en Syrie pour montrer des systèmes dont elle n'avait pas forcément très besoin dans ce cadre. J'ai notamment en tête la fameuse utilisation des missiles Calibre, que la Russie a utilisé à partir de petits bâtiments en mer Caspienne pour atteindre des cibles en Syrie. Elle n'avait pas forcément besoin de démontrer ça, d'utiliser ces systèmes-là pour réaliser ces frappes. Mais c'était l'occasion de montrer, vous savez, quand on vous parlait de capacités de dissuasion conventionnelles avec des missiles précis à longue portée, on rigolait pas. Et on les a maintenant. Alors, ils les ont pas utilisés massivement, mais ils ont aussi fait des frappes à partir de sous-marins justement en Méditerranée avec ces mêmes missiles calibres. Et il y a eu beaucoup de démonstrations de nouvelles capacités militaires de la part de la Russie, dans le souci sans doute d'attirer des clients pour son industrie d'armement, mais aussi de montrer qu'aujourd'hui, cette idée que la Russie a une capacité de dissuasion conventionnelle et non pas uniquement nucléaire, concrètement, ça existe.
Mais alors tout ça, qu'est-ce que ça dit, peut-être si on prendre les choses un peu plus largement, de la relation au bloc otanien, disons, états-unien. Mmh. Et c'est là que ça va faire la liaison avec la question de l'armement. On sait par exemple, la Turquie est un cas très intéressant pour ça. On sait qu'il y a eu des frictions, notamment en Syrie, il y a même eu un avion russe qui a été abattu par un avion turc en fin 2015. Mmh. Mais en même temps, ça n'empêche pas la Russie de faire des gestes en direction de la Turquie, d'essayer de les détacher un peu, on a l'impression, du bloc otanien.
Essayer de les détacher beaucoup.
Oui, c'est ça, et d'y réussir plutôt pas mal, puisqu'ils leur ont notamment vendu des systèmes anti-aériens S-400, ce qui a une des grosses conséquences, parce que ça a empêché la Turquie d'acheter des F-35. Alors on peut dire qu'ils s'en portent pas forcément plus mal, mais c'est pas la question d'un point de vue des alliances, c'est important. Donc est-ce que, dans une certaine mesure, c'est toujours... Est-ce que c'est toujours l'OTAN la cible pour la politique étrangère russe, ou est-ce que c'est d'une manière plus générale, est-ce que c'est plus flou, ou est-ce que c'est encore presque un retour à l'époque du pacte de Varsovie, quoi ?
Alors, l'OTAN la cible, les Russes vous disent, c'est l'OTAN la principale menace. Et encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne pense pas qu'on puisse admettre à un Russe que l'OTAN, d'abord qui a perduré alors que l'URSS n'existe plus, le pacte de Varsovie n'existe plus, les Russes, eux, considèrent qu'on ne voit pas pourquoi l'OTAN a perduré. Et compte tenu de leur façon de réfléchir le monde, ils ont du mal à imaginer qu'on n'a pas conservé l'OTAN pour d'autres raisons que finalement d'avoir une posture vis-à-vis de la Russie. Il y avait plein d'autres raisons, on le sait maintenant, dans la décision d'élargir l'OTAN, de conserver l'OTAN et d'élargir l'OTAN. Mais pour les Russes, c'est hostile par principe, cette alliance militaire. Le deuxième élément, c'est que dedans, il y a les États-Unis, parce que nous, on leur dit souvent, oui, mais vous voyez bien, c'est une alliance quand même surtout politique, et puis il y a beaucoup d'armées qui n'ont pas des gros budgets, etc.
Et
eux, ils disent, dedans, on voit bien quel est l'acteur majeur. En fait, c'est une alliance qui est dominée par les États-Unis, dans lesquelles il y a la puissance militaire américaine, qui, vu des Russes, peut être assez interventionniste. Et donc, pour eux, rien que ça, c'est un élément supplémentaire qui montre que l'OTAN, c'est un problème potentiel en termes militaires et sécuritaires pour la Russie. Et puis enfin, il y a un aspect plus politique, c'est-à-dire que pour les Russes, finalement, le maintien de l'OTAN, c'est le maintien de la présence américaine, de l'influence américaine sur le continent européen. Et ça fait pas le jeu des Russes. Et là, on revient sur ce débat éternel éternel sur la place de la Russie dans l'architecture de sécurité européenne. Vous savez qu'ils nous ont fait plein de propositions sur une architecture de sécurité européenne qui serait plus équilibrée dans leur perspective. Et pour eux, la réarchitecturation de l'espace de sécurité européen, il a été exclusif de la Russie parce qu'il s'est fait autour de l'OTAN, de l'Union européenne que pour plein de raisons les Russes ont fini par voir comme finalement un élément de cette galaxie OTAN UE, un petit peu même combat. Maintenant ils les mettent dans le même sac dans leurs documents stratégiques. On parle de l'OTAN et de l'Union européenne comme des acteurs qui font du rollback, j'ai oublié le terme en français, de l'influence russe en Europe et dans son voisinage immédiat. Donc il y a aussi cette dimension là, c'est-à-dire la Russie estime que finalement, l'espace de sécurité européen, il est architecturé aujourd'hui autour de deux organisations dont elle n'est pas membre, dont certains membres sont assez hostiles vis-à-vis de la Russie. Ça, je pense à ceux qui sont entrés à la faveur des récents élargissements. Et que donc, ça lui pose un problème aussi, parce qu'elle estime qu'elle est une puissance européenne de plein droit et que donc, c'est un espace de sécurité qui est instable et déstabilisant. Et on a un peu l'impression que les Russes veulent nous montrer que ce qu'elle disait à ce sujet-là, c'était vrai. En fait, en créant ou en alimentant des situations qui créent de l'instabilité pour l'Europe, en espérant, sans doute, je pense qu'il y a un peu de ça, même si je crois qu'ils n'y croient plus trop en ce moment, que peut-être quelques pays européens vont se réveiller en disant, bon, bah, peut-être qu'il faut remettre tout ça sur la table et revoir les choses. Mais maintenant, je pense qu'on est arrivé à un tel degré de tension entre les Russes et les Occidentaux, puis on peut dire que les Russes ont mis beaucoup de bonne volonté pour créer des situations de tension, hein, de leur côté, que c'est un petit peu, à mon avis, délicat aujourd'hui d'imaginer qu'on puisse complètement remanier l'architecture de sécurité européenne dans un sens qui conviendrait mieux aux Russes.
Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашены поля. И у берез и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские войны? Только за свою страну солдаты гибли в ту войну. А чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли, спросите тех, кто воевал, кто вас на Эльбе обнимал. Мы этой памяти верны. Хотят ли русские
войны? Ouais, alors c'est peut-être l'occasion de dire un mot peut-être de la dernière situation de tension en date, notamment puisqu'on parlait de l'Ukraine il y a 5 minutes. Ce sont ces mouvements de troupes actuels à la frontière ukrainienne. Alors très rapidement, parce que j'aime pas du tout réagir à une actualité chaude, ouais, surtout comme là où on sait pas grand chose, parce qu'on est ni devin ni chroniqueur actu, et que j'essaye que les épisodes du Collimateur se périssent pas trop vite, ce qui implique de pas trop commenter les nouvelles du jour. Mais donc, c'est quand même, puisque c'est parfaitement dans le thème, comment est-ce qu'on peut inscrire et comprendre en quelque sorte cette actualité récente, donc grand déploiement de troupes à la frontière ukrainienne.
Et en Crimée,
on ne sait pas ce que ça veut dire. Il y en a qui disent que ça, est-ce que ça va être une attaque, mais d'autres qui disent, ben, généralement, quand la Russie attaque, on ne le voit pas tellement venir. Comment introduire ça, disons, dans le bras de fer avec l'Ukraine et au-delà avec l'Union européenne et l'OTAN?
Alors, Je vais vous donner mes hypothèses, hein, sachant qu'effectivement, comme vous le disiez, on n'a pas forcément l'image complète. Je pense qu'il faut regarder un peu des choses qui sont passées en Ukraine dernièrement, où on a un président Zelensky qui peut-être est en assez mauvaise posture sur le plan politique interne, et puis qui n'a pas finalement, les Russes l'ont pas beaucoup aidé sur l'affaire des accords de Minsk, hein, puisque les Russes n'ont pas fait beaucoup de concessions, et en gros on dit, faut que les choses se règlent selon nos préférences quand même, d'une manière générale, et même s'il dirait sans doute le contraire. Donc il y a cet élément-là, et c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu des peut-être que c'est un des arguments qu'essaye de mettre en place Zelensky pour améliorer finalement sa position sur la scène politique intérieure. Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu des médias qu'on peut qualifier de pro-russes qui ont été fermés. Il y a eu aussi quelques attaques contre des oligarques ou des représentants de forces politiques qu'on pourrait qualifier aussi comme pro-russes dans le débat dans le débat politique ukrainien. Et puis il y a eu un décret pris par le Conseil de sécurité et de défense nationale ukrainien qui parle de la réintégration de la Crimée et du Donbass, etc. Et tout ça dans un contexte où l'Ukraine, Zelensky s'adresse à Biden, il y a eu un coup de téléphone entre les deux. On reparle de finalement l'adhésion possible de l'Ukraine à l'OTAN. Et je pense que ces éléments mis ensemble provoquent dans le sens, pas dans le sens où il y a de la provocation du côté des Ukrainiens, mais en tout cas ça crée une réaction du côté des Russes, puisque si les États-Unis entrent dans le jeu, la Russie va immédiatement actionner sa pensée inquiète sur qu'est-ce qui se passe si les Américains s'en mêlent et si l'OTAN s'en mêle.
Mais on est d'accord que ça ressemble plus, j'ai pas envie de dire à la gesticulation, parce que ça aurait l'air désobligeant, mais en tout cas à, disons, presque une roulure de mécanique, quoi, une démonstration de muscles, quoi, que à vraiment. Enfin, je veux dire, ils vont pas réenvahir le Donbass.
L'idée, c'est on va pas. On envoie des signaux que si les États-Unis veulent s'en mêler de manière plus active, que si on reparle de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, la Russie ne restera pas sans réaction. Après, le déploiement de troupes plus important en Crimée, ça va aussi dans le sens d'une dynamique de ces dernières années où on a vu la Russie vraiment bastionniser d'une certaine façon la Crimée parce que. Elle, ce qu'elle estime, c'est que comme ce rattachement, comme disent les Russes, de la Crimée à la Fédération de Russie n'est pas reconnu par la communauté internationale ou par une poignée de pays amis, il y a une menace potentielle qui pèse sur ce territoire que les Russes considèrent donc désormais comme russe. Donc il y a cette idée. Pour nous, c'est russe, on n'y reviendra pas. Et donc il y a effectivement de la gesticulation. Le danger dans ce genre de situation, et je pense que ni les Ukrainiens ni les Russes n'ont envie d'en découdre militairement, mais voilà, le danger de ce genre de situation, c'est qu'il peut y avoir un incident qui dégénère et une escalade, en fait. Ça, c'est vraiment le risque. Mais effectivement, je pense qu'on est plutôt dans cette dynamique que vous évoquez, qui vient d'une sorte de rapport de force un peu évolutif entre l'Ukraine d'un côté, qui a ses raisons propres de remettre un certain nombre de questions sur la table, l'arrivée de Biden, dont on sait qu'il a peut-être plus de sympathie pour la cause ukrainienne que pour la cause russe. Trump n'avait pas beaucoup parlé de l'Ukraine. Biden a d'autres raisons, il est plus intéressé à ce dossier. Il était quand même en fonction quand la crise de 2014 a eu lieu, donc il a participé au bras de fer Obama-Poutine au moment de l'annexion de la Crimée. Donc il a potentiellement plus de raisons d'avoir envie de s'en mêler quand les Ukrainiens appellent la communauté internationale à réagir. Donc les Russes réagissent à tout ça. Mais effectivement, je pense qu'il n'y a pas de volonté d'envahir qui viendrait de nulle part. Mais encore une fois, on ne peut pas complètement exclure une escalade dans ce genre de situation assez tendue.
Ouais. Alors enfin, parce que c'est toujours bien de se décentrer un peu, et même si l'Occident, enfin les puissances atlantiques sont très importantes pour la Russie, c'est bien de casser un peu ce truc, parce qu'en fait, il n'y a pas que nous, notamment dans l'esprit russe, et il faut instaurer, enfin injecter en quelque sorte l'autre grand acteur dont j'essaie de parler toujours autant que possible, qui est la Chine. C'est-à-dire, la Chine et des liens entre, et des alliances militaires entre la Chine et la Russie, en tout cas des coopérations qui sont assez avérées et poussées depuis quelques temps. Évidemment, depuis l'OTAN, l'Union européenne, les États-Unis, c'est une perspective assez préoccupante puisque ça ressemble à être un peu à l'alliance entre l'ennemi d'hier et l'adversaire de demain, quoi. En même temps, il ne faut pas non plus exagérer la chose, parce que ce sont deux puissances qui ont une rivalité, qui étaient en guerre quasiment ouverte il y a 50 ans sur un conflit frontalier, qui ne sont pas non plus des alliés particulièrement organiques. Mais en même temps, il y a des choses, il y a des exercices communs, il y a un rapprochement. Donc disons, quelle en est la mesure de ce rapprochement militaro-stratégique entre Chine et Russie? Et qu'est-ce que chacun y trouve?
Alors c'est vrai que ça va être dur d'évacuer complètement la dimension États-Unis, en tout cas occidentale, des choses, parce qu'un des éléments qui les a aussi fortement rapprochés, c'est cette perspective commune qu'il y a une pression de plus en plus forte des puissances occidentales, mais États-Unis en tête, sur eux, sur les deux régimes, etc., etc. Donc c'est un élément important, mais qui s'inscrit dans quelque chose d'assez structuré depuis maintenant 30 ans, c'est-à-dire que ce sont deux pays qui ont décidé d'avoir des relations de bon voisinage dans les années 90, précisément parce que chacun d'abord devait se concentrer sur son développement intérieur. À cette époque-là, les deux étaient un peu sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Également parce que justement, il y avait cette analyse assez commune aux deux que peut-être l'Occident s'estimait vainqueur de la guerre froide et que sur le long cours, ça pouvait leur poser un certain nombre de problèmes. Mais l'idée, c'est aussi, voilà, pour la Russie, c'était de s'assurer de ne pas avoir dans la Chine qui monter en puissance un adversaire à sa frontière, compte tenu de la situation qu'on a évoquée tout à l'heure, qui n'était pas une situation très confortable. Et même aujourd'hui, la Russie ne se sent pas forcément dans une très forte assise sur le plan économique, sur le plan même démographique, face à cette multitude de menaces qu'elle perçoit toujours sur sa sécurité.
C'est intéressant, ils n'ont pas réagi à la montée de la Chine comme à une menace pour eux. La Chine qui monte économiquement et militairement, c'est pas devenu une menace pour eux, c'est devenu aussi une opportunité dans une certaine mesure, puisque la menace, enfin en tout cas le souci principal, c'était l'Occident.
Ça leur pose quand même un problème, parce qu'ils voient bien que le rapport de force, il s'est inversé en pas beaucoup de temps, hein, à leur détriment. Donc évidemment que ça leur pose question, et on en parlait beaucoup plus d'ailleurs dans les années 90, même 2000, on trouvait beaucoup plus d'articles dans la presse, la grande presse russe et dans les débats télévisés en Russie sur la possibilité d'une menace chinoise, etc. Ça, c'est... Aujourd'hui, on n'en parle plus parce qu'aujourd'hui, on est vraiment partenaire stratégique face à une menace qui est plus imposante. Et objectivement, aujourd'hui, côté russe, on considère que la principale menace sur la Russie, que ce soit au niveau militaire ou au niveau politique, cette affaire de changement de régime, ce sont les Occidentaux. Et qu'à côté, la Chine est plus un partenaire qu'autre chose, ne serait-ce que parce qu'elle partage cette vision-là. Ensuite, il y a cette armature qui s'est construite et là qui est dissociée de cette problématique occidentale, si on peut dire ça comme ça, qui est que comme ils ont voulu avoir une relation de bon voisinage, ils ont trouvé des mécanismes pour régler les conflits quand il y en a, et Dieu sait s'il y en a eu, hein, des problèmes de commerce illégal à la frontière commune, des problèmes de pollution aussi dans les territoires russes venant de Chine, etc. Il y a des groupes de travail très très nombreux pour régler des tas de problèmes qu'ils ont. Mais voilà, ils ont une relation opérationnelle. Ils sont voisins, ils ont des problèmes communs et ils essayent de les régler ensemble. Mais c'est vrai que ce développement que vous évoquez...
Et puis d'un point de vue militaire...
C'est ce que j'allais évoquer.
C'est ça, depuis les années 2000, mais surtout depuis 2012, ils font des exercices communs, notamment des exercices navals fréquents, etc. Il y a un vrai truc.
Et ça, pour le coup, c'est quand même assez lié à cette perspective des deux que l'Occident exerce sur eux, et notamment les États-Unis, donc, et exerce sur eux une pression vraiment très forte. Et donc, il y a ces exercices, effectivement, ça date de 2012, les premiers exercices navals, donc c'est chaque année. Et parfois, c'est dans des zones qui sont assez expressives, on va dire, du point de vue du rapport de force stratégique avec les Occidentaux. Donc, on a parfois la marine chinoise qui se retrouve en Baltique, désormais. La Russie et la Chine qui mènent des exercices conjoints en mer de Chine du Sud, etc., etc. Donc, on voit très bien quels sont les messages que ces exercices envoient. Et par ailleurs, il y a eu ces grands exercices stratégiques en territoire russe, Vostok, ça veut dire Est, donc une fois tous les 4 ans, il y a un exercice stratégique Est où l'armée russe est censée traiter les menaces qu'elle voit par rapport à cette partie de son territoire. Et c'est vrai que jusqu'à un passé récent, Voilà, on regardait plutôt ce que ça pouvait vouloir dire par rapport à l'éventuel envahisseur chinois, etc., etc. Et là, en 2018, donc le dernier exercice Vostok en date, vous avez des troupes chinoises qui participent en territoire russe à cet exercice. Et donc là, le message est très clair. Le message, c'est nous sommes vraiment voisins, nous avons des relations de bon voisinage. Et si nous invitons des troupes chinoises sur notre territoire, et il y avait également des troupes mongoles d'ailleurs, si on invite des troupes chinoises sur notre territoire pour participer à cet exercice, c'est que il n'y a pas de menace perçue de la part du côté de la Chine, en fait. Donc c'est un cran supplémentaire. Et on voit que les Russes aussi aiment bien mettre en avant, finalement, l'intérêt que les Chinois manifestent pour l'expérience opérationnelle de l'armée russe, que n'a pas l'armée chinoise.
Il faut toujours préciser que c'est la grande lacune de l'armée chinoise, c'est les interventions extérieures.
C'est ils ça. Savent pas faire, et visiblement, ils espèrent avoir des effets d'apprentissage au travers de ces exercices qu'ils mènent avec les Russes ces derniers temps, que ce soit en bilatéral ou dans le cadre de l'organisation de coopération de Shanghai. Et pour les Russes, c'est positif
c'est un truc de prestige,
parce que
quoi, aussi.
Voilà, c'est le truc de prestige. Et une fois de plus, quelle est la carte que la Russie peut jouer le plus efficacement, aussi de par son passé militariste, hein, qui fait qu'elle a un petit peu mis l'accent sur cette carte maîtresse qui est le facteur militaire, eh bien, c'est cette carte des forces armées. Donc, ça permet aussi de dire, dans ce domaine-là, quand même, j'ai encore un petit train d'avance par rapport aux Chinois, puis je leur montre ce que je suis capable de faire au cas où, quoi. Il y a de ça. Mais effectivement, il y a une vraie densification des relations militaires entre la Chine et la Russie. Et c'est intéressant parce que, jusqu'à un passé récent, dans ce fameux partenariat stratégique sino-russe, on parlait beaucoup de les coopérations d'armement, des ventes d'armes russes à la Chine, certes, mais c'est pas une coopération militaire en tant que telle. Et aujourd'hui, ça prend de l'essor. Et ça, c'est quand même très directement lié à cette perspective commune sur l'Occident, potentiellement menaçant pour leurs intérêts, voire pour la stabilité des régimes, des deux régimes russes et chinois.
Alors enfin, tout dernier volet, disons, de ce grand tour d'horizon, je voudrais terminer, bon, parce qu'on vient de parler énormément d'histoire et de stratégie militaire russe, et je voudrais clore simplement en parlant un peu, si possible, de capacités opérationnelles, mais peut-être un peu plus précisément, telles qu'on peut les observer actuellement. Alors évidemment, c'est complètement océanique comme sujet, ça mériterait... Une mission. Chaque composante de l'armée russe mériterait une opération à part entière, l'armée de l'air, la marine et l'armée de terre. Par ailleurs, je signale que l'une des meilleures ressources sur le sujet, pour ceux qui voudraient creuser, c'est le hors-série DSI auquel je faisais référence tout à l'heure, le numéro 71, qui est extrêmement précis là-dessus, qui complète excellemment bien votre ouvrage. Mais pour essayer de résumer, d'en tirer la substantifique moelle en quelque sorte, je vous ai demandé de retenir, disons, quelques points forts et quelques points faibles opérationnels russes sur la scène internationale par rapport aux autres grands compétiteurs militaires. Qu'est-ce qu'est-ce qu'ils savent très bien faire, qu'est-ce qu'ils savent moins bien faire, quels sont, disons, les domaines d'excellence encore reconnus et visibles aux yeux de tous de l'armée russe.
Oui. Alors, non seulement il y a le DSI, mais il y a aussi, cité dans mon ouvrage, il y a sur ces aspects-là, plus techniques en fait, et pour les équipements, je cite des blogs qui vraiment sont
on peut citer imparables. Le blog qu'on aurait dû citer probablement avant, mais l'un des tout meilleurs, c'est le blog Red Samovar.
Tout à fait.
Animé par Benjamin Gravis, qui est un spécialiste étonnant de toutes les composantes militaires russes, qui est vraiment un puits de science là-dessus. Donc on peut le recommander pour tous ceux qui voudraient creuser, en sachant qu'une fois qu'on commence à mettre le doigt dedans, il va très loin et on peut se laisser emporter très très loin dans les capacités militaires russes une fois sur le blog.
Mais alors en termes donc plus généraux, et puis ceux qui voudront creuser iront voir le blog Red Samovar, finalement les points forts, ça reste les points qui étaient les points d'excellence finalement dans la période soviétique, donc l'aéronautique reste quand même un de leurs points d'excellence, tout ce qui est missiles, et on l'a bien vu, j'ai parlé des missiles calibre, mais il y a eu d'autres nouveautés en la matière, et on parle beaucoup des missiles hypersoniques russes qui sont en cours de développement. Alors il y a peut-être un petit peu aussi d'exagération, en tout cas de valorisation excessive, mais en tout cas c'est clair que sur ça ils ont de très bonnes capacités.
Mais par ailleurs les missiles hypersoniques ça va dans le cadre de tout un domaine d'excellence russe traditionnelle qui est l'aérospatiale militaire.
Absolument.
Puisque l'hypersonique, l'idée c'est qu'il dépasse l'atmosphère terrestre, il re-rentre en hypersonique, et que ils ont aussi pas un temps d'avance, mais ils s'y sont mis très tôt, ils sont très bons en aérospatial le militaire.
Absolument. Donc ça reste des points forts. Il y a les systèmes antiaériens. D'ailleurs, c'est pas le hasard si on retrouve aussi ces systèmes en bonne position dans les ventes d'armes aussi de la Russie sur la scène internationale. Le volet aéronautique, le volet système antiaérien sont les deux principaux, enfin en tout cas les deux premiers secteurs dans lesquels la Russie vend assez efficacement ses systèmes militaires.
À la fois les Sukhoi et les S-400, quoi.
Voilà, tout à fait, S-400, mais aussi les Pantsir. Enfin, il y a plein de systèmes antiaériens de toute portée et de toute taille qui signent un peu un des champs de qualité de l'industrie d'armement russe. Par ailleurs, là où ils nous ont assez... ils ont eu des compétences marquées, on l'a vu en Syrie, on l'a vu aussi en Ukraine. C'est en matière de guerre électronique. Alors là aussi, c'est pas complètement nouveau, mais visiblement, il y a eu des sauts qualitatifs en la matière ces dernières années. Et ça va bien dans ce que les Russes essayent de faire finalement face à ce qui reste la supériorité de l'OTAN en matière conventionnelle. C'est d'essayer de jouer sur les asymétries, et donc brouiller les appareils de haute technologie occidentale. C'est objectivement un des points sur lesquels ils essayent de mettre l'accent, et pour l'instant visiblement avec quand même un certain succès. Donc ça, c'est un des points.
On peut mentionner aussi, oui, tant qu'on parle de l'Ukraine, que notamment l'artillerie russe s'est pas mal distinguée, et notamment avec des originalités, enfin, de cette utilisation mixte, notamment des drones, pour le ciblage des petits drones qu'ils envoient partout pour marquer les cibles, qui ensuite sont communiqués à l'artillerie. C'est probablement les Russes qui ont les premiers déployé ça sur un théâtre assez large. Ouais. Ça a été largement repris depuis. Oui. Mais bon, ça montre que là-dessus, ils sont quand même encore très forts. Et on sait que l'artillerie russe, très traditionnellement, était un domaine d'excellence.
Voilà, donc sur ça, j'ai rien à ajouter, parce que vous venez de tout dire. Mais c'est vrai que sur les drones, là aussi, ça a été un peu une surprise, parce qu'il y a encore quelques années, on voyait les Russes très en retard sur le sujet. Ils ont dû faire appel à des coopérations avec les Israéliens, en fait, pour essayer d'avancer sur le domaine. Et d'ailleurs, ils ont réussi à avancer, en tout cas pour tout ce qui est drones de reconnaissance, etc., etc. On voit que drones de combat, ça prend un peu plus de temps, mais visiblement, ça ne va pas tarder à apparaître dans les nouvelles capacités. Donc là aussi, il y a eu des enseignements assez intéressants par rapport aux évolutions capacitaires côté russe, qui montrent que leur industrie, aussi parce qu'elle a été bien aidée sur le plan du budget, il y a eu un gros effort sur l'équipement avec un gros programme d'armement qui avait été adopté en 2010, qui n'a pas été rempli complètement, mais qui a été quand même financé de manière vraiment large. Et donc, évidemment, ça finit par avoir un impact. Il y a aussi le volet spatial, qui a longtemps été en déliquescence, et ça reste en recomposition, si vous voulez. Mais le système d'alerte avancée, aujourd'hui, se porte bien mieux qu'il se portait il y a 20 ans, et donc la capacité est vraiment reconstituée. Le système aussi, le fameux GPS russe, le GLONASS, dont on a vu qu'il était bien intégré aujourd'hui dans les opérations militaires, en tout cas en Syrie, c'était tout à fait net. Donc sur le volet spatial, là aussi on voit une remontée en puissance. Mais c'est vrai que d'une manière générale, c'est difficile de trouver des systèmes vraiment russes. En fait, il y a beaucoup de systèmes dits nouveaux dans l'arsenal russe qui sont tirés des cartons des bureaux d'études soviétiques, en fait, et ils ont quand même un petit peu de mal à élaborer de nouvelles technologies, vraiment de nouvelles technologies.
Et enfin, peut-être dire un mot des points faibles. Alors bon, il y a quelques années, ça aurait été très facile, mais peut-être dire un mot, alors je vais vous laisser ouvrir, mais peut-être la marine, c'est un point important. Il faut dire qu'il y a eu un problème symbolique assez fort avec le gros porte-avions russe, qui est l'amiral Kuznetsov, qui était en chantier il n'y a pas si longtemps et qui a à moitié coulé. Enfin bon, ça a été un très très gros échec, ce chantier de l'amiral Kuznetsov. D'une manière générale, bon, on peut dire que la marine russe est peut-être un peu en retrait par rapport aux autres composantes de l'armée russe. Alors, je ne sais pas.
Absolument. Notamment pour les grandes plateformes, ça c'est vraiment... Pourquoi ? Parce que, en fait, du temps de l'Union soviétique, c'était l'Ukraine qui avait le plus gros des compétences en la matière. Hein, donc, et puis, les chantiers navals russes, il y a eu beaucoup de réorganisations. Ils en avaient trop. Il y a eu des fusions. Il y a eu une désorganisation de ce secteur. Et c'est pas pour rien que Serdioukov, dont nous parlions tout à l'heure, avait voulu acheter les bâtiments de projection et de commandement Mistral. Non seulement pour avoir ce beau bâtiment dans l'arsenal russe, mais aussi parce qu'il y avait... y avait des effets d'apprentissage, notamment en matière de gestion de grands projets comme ceux-là, de construction de bâtiments de cette nature, parce que leurs chantiers ne savent pas faire, ou en tout cas pas très bien faire. Donc sur ça, il y a
on peut
un
rappeler
souci.
Que donc, c'était le troisième de la classe des BPC, enfin, aujourd'hui des PHA, les porte-hélicoptères amphibies. Mmh. Donc, qui était censé être vendu à la Russie, puis après il y a eu 2013-2014 qui est passé par là et c'est devenu le Dixmude. La marine l'a récupéré, je crois, avec plutôt beaucoup de bonheur. Mais c'était quand même le projet, c'était de rentabiliser ce grand projet très coûteux en en vendant un paquet à la Russie. Et puis bon, depuis on en a vendu aussi à l'Égypte.
Voilà, tout à fait. C'était juste pour dire que justement, en achetant ces bâtiments, l'idée c'était non seulement d'avoir ces plateformes-là dans l'arsenal russe, mais aussi d'apprendre à d'avoir des effets d'apprentissage en termes de gestion de projets, de construction de ce type de bâtiments. Donc les Russes aujourd'hui ils vous disent, bon, on sait très bien, on peut pas forcément aller très très loin, mais on a encore quelques bâtiments un petit peu anciens maintenant, mais on peut, quand on veut faire de la projection, de la démonstration, on a encore quelques restes, c'est pas évident, mais on peut le faire. Et puis pour le reste, finalement, on l'a montré en Syrie, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, on a ces missiles qu'on peut finalement déployer sur des petites plateformes, et ça on sait assez bien faire, les petites plateformes, et on a quand même 4 flottes et une flottille en Caspienne. Et donc, avec nos armes de précision, on peut finalement compenser dans une certaine mesure ces limitations qu'on a intrinsèques en termes de bâtiments.
Après, en plus, ça ne compense pas tout, mais il y a aussi les sous-marins qui font partie de la composante nucléaire, évidemment, mais
ça marche plutôt bien.
Et on les a vus, d'ailleurs, justement, pour ne pas se contenter de la dissuasion, on les a vus très récemment au pôle Nord, briser la banquise.
Oui.
C'est aussi de la géopolitique arctique. C'est aussi une autre question dans laquelle on n'a pas du tout le temps d'entrer.
Non.
Mais ça montre quand même que la flotte de sous-marins, même si elle est plus invisible, disons, est quand même quelque chose qui se tient très bien au sein de l'appareil militaire russe.
Oui, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de... on parlait de la Crimée, elle a été beaucoup renforcée en sous-marins classe Kilo. Toutes les nouvelles plateformes qui sont produites sont équipées pour justement pouvoir emporter ces fameux missiles calibre à longue portée... censé être précis, etc. Donc voilà, il y a cet effet de compensation qui peut suffire. Et on peut rappeler que traditionnellement, finalement, sur les ambitions navales, la Russie, qui est quand même la puissance continentale par excellence, elle est souvent ambivalente. C'est une priorité quand on a de l'argent, quand on a les moyens. Et puis sinon, on se débrouille autrement, parce que la priorité, ça va plutôt être la protection des abords. Compte tenu du long littoral russe, il y a quand même matière à s'occuper. Et donc aujourd'hui, on a ces technologies qui nous permettent de compenser finalement le fait qu'on n'a pas finalement beaucoup de moyens pour aller très loin dans ce qu'ils appellent l'océan mondial. Et puis ils essayent aussi, et je pense que ça fait partie de la stratégie de compensation, ils essayent d'obtenir des accès à des ports pour leurs bâtiments. Et on l'a vu récemment avec un accord qui a été passé pour avoir un point d'appui naval à Port-Soudan. Et on peut supposer que dans les prochain temps, ils essaieront de multiplier ce type d'opération pour justement accroître leur présence navale malgré les limitations objectives des chantiers navals russes.
Très bien. Merci infiniment Isabelle Facon d'être venue dans le collimateur et donc d'avoir raconté cette histoire et dressé ce tableau de la puissance militaire russe avec nous.
Merci à vous.
Je rappelle donc cet ouvrage, La nouvelle armée russe, dans la collection des carnets de l'Observatoire, dont je signale encore qu'il se complète idéalement du hors-série numéro 71 de DSI, qui détaille, lui, très finement toutes les capacités et les équipements divers de l'armée russe. Voici donc, pour ce numéro 100 du Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. On va probablement profiter de ce chiffre rond pour prendre une pause d'une ou deux semaines. C'est encore un peu flou, ça dépend d'une variable. Mais évidemment, il y a encore un épisode vendredi qui sera probablement un bunker avant cette interruption. Et dans tous les cas, surveillez vos fils podcasts. Il n'est pas impossible que je commence parfois à rediffuser pendant les pauses des épisodes plus anciens, mais qui se laissent particulièrement réécouter, parfois quand je trouve qu'ils sont toujours pertinents et d'actualité. Dans tous les cas, on reviendra avec des épisodes neufs, au moins vers la fin du mois. Comme toujours, notes, remarques et commentaires sont particulièrement les bienvenus sur les outils d'Apple Podcast ou de SoundCloud. C'est un des leviers de la croissance de l'émission, mais dont le ressort principal reste le bouche à oreille, le fait que vous en parliez autour de vous à des gens qui pourraient être intéressés par les différents formats du collimateur. Bonnes vacances donc, merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.